France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Valérie Jeanne Perrier.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse en sciences de l'information et de la communication, vous êtes professeure au CELSA et vous êtes spécialisée sur la question de la transformation du journalisme et des médias avec l'arrivée des réseaux sociaux. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Internet a aussi changé la mode », sous-titré « Quand Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube, Vine, Periscope, Tumblr et compagnie, parce qu'il y en a encore d'autres, s'affiche sur le devant des podiums. C'est un livre dans lequel vous essayez de comprendre justement ce qui a changé dans ce secteur de la mode et notamment dans ce secteur médiatique de la mode. Peut-être un petit peu avant de commencer et de comprendre un peu cette mutation, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quel était le contexte, qu'est-ce qui a changé, comment ça fonctionnait avant, dans l'avant, peut-être pas celui de Roland Barthes des années 60, décrit dans les années 60, mais c'était quoi ce système de filtre, de sélectivité, qui en tout cas fonctionnait très bien et sans perturbation, avec quels acteurs, jusqu'à ces dernières années ?
Avant, bien sûr, il y avait la presse magazine destinée à un public féminin qui rythmait les saisons de mode avec des numéros spéciaux qui, au moment des grandes saisons, des grandes semaines comme cette semaine, couvraient les défilés, les collections, les séries, mettaient en lumière un certain nombre d'aspects, le style, les couleurs, les tendances, et puis les acheteurs et tout le système de la mode, c'est-à-dire les stylistes, se calquaient sur ces grands magazines qui donnaient le « là » finalement de ce rythme.
Et c'était effectivement, il y avait une forme de légitimité ou en tout cas de droit d'entrée pour parler de la mode.
Bien sûr, il y avait les grandes rubricardes qui étaient là pour dire et porter leur regard. Certaines étaient très connues, vous en avez sans doute entendu parler. Suzy Menkes en France, qui a écrit longtemps pour le International Herald Tribune. Et puis vous avez reçu aussi Vanessa Friedman. Ce sont des personnes qui, à cette époque, étaient vraiment des papesse de la mode, qui donnait un regard, qui était suivi, écouté, reçu vraiment comme des déesses qui allaient porter un regard très spécifique sur cette mode.
Qui structurait donc à la fois la manière dont on parlait, la manière finalement dont l'industrie se structurait, même au sens de l'année. On a tous probablement vu Le Diable s'habille en Prada, qui met en scène Anna Wintour dans le fameux numéro de septembre, avec véritablement une structuration même de l'économie et de l'industrie autour de ces temps médiatiques. Et là, dans ce livre, Internet a aussi changé la mode, vous décidez, en tout cas vous nous donnez une date qui est celle de 2013, qui vous semble être la date autour de laquelle tout bascule. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce qu'évidemment on sait que l'internet existait avant. Pourquoi vous avez choisi cette date-là pour nous donner vraiment un changement de paradigme?
Alors à ce moment-là, il y a un phénomène de maturité. Les blogs que vous connaissez sans doute, ces sites qui sont publiés plus facilement avec des systèmes d'information, sont très répandus.
Blogueuses féministes,
voilà,
sont déjà arrivées.
Tout d'un coup arrivent les blogueuses qui portent un regard sur la mode, qui sont très libres, qui se lancent d'elles-mêmes, qui n'ont pas besoin finalement du filtre médiatique traditionnel et qui vont petit à petit apporter leur pierre à l'édifice en étant très indépendantes. Elles sont autonomes, elles vont à leur rythme, elles choisissent les pièces qu'elles ont envie de commenter, les accessoires qu'elles ont envie de commenter, et petit à petit, elles gagnent une audience. La deuxième étape, au tournant de 2013 et vers 2015, c'est la maturité des usages autour des réseaux sociaux. Là, le jeu des commentaires, le jeu d'aimer ou de ne pas aimer, le jeu des hashtags, vous savez, ces signes qui marquent des marques, justement, ou des mots, sont très présents sur un certain nombre de réseaux et notamment une plateforme qui est la plateforme Facebook, qui va ensuite acheter la marque Instagram, qui est vraiment cette plateforme où l'image est centrale. À partir de là, 2015, c'est l'explosion. Chacun peut dire la mode.
Chacun peut dire la mode, et puis surtout, vous le dites bien, la première partie de votre livre est consacrée au défilé. Le défilé de mode qui finalement est un objet qui à la fois est toujours célèbre, on va le voir, parce qu'évidemment, les acteurs traditionnels ont souffert, mais finalement reviennent et adoptent les nouveaux codes. Mais en fait, vous le dites, le défilé, c'était le moment où on montre ce qu'il y a de nouveau. Et puis, de plus en plus, on a commencé à mettre en scène les coulisses. Et finalement, le commentaire sur la mode, tout le monde a accès aux coulisses, tout le monde peut se mettre en scène, du moindre petit Instagrammeur, au modèle. Il y a, disons, une explosion des gens qui peuvent avoir un discours sur la mode. Donc on ne sait plus vraiment où ça se joue, où se joue la valeur.
Bah, chacun peut être à la fois émetteur d'un message et destinataire. Hein. Alors, ce qui est assez intéressant dans le monde de la mode, c'est que le défilé est un moment très particulier, très intimiste, avec ses règles pour pouvoir y accéder. Autour du défilé et avant la semaine de la mode, eh bien, petit à petit, on a vu ces acteurs, blogueurs ou voire street stylers se mettre en scène eux-mêmes et puis être très présents avant et après les défilés pour prendre à la sortie ou avant les défilés des images se mettant en scène avec les mannequins. Et puis bien sûr, il y a cette image force du selfie où chacun retourne l'appareil vers soi et se montre avec son style, imitant ce qui se trouve sur les défilés ou au contraire, inspirant des tendances de la part des stylistes qui se disent qu'ils doivent s'inspirer de ce que font ces observateurs nouveaux.
Alors évidemment, c'est très intéressant, 2013-2015, c'est quand même des dates qui sont très proches, mais on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis lors. Finalement, cette explosion, cette ouverture, alors on a entendu deux messieurs qui sont quand même très des acteurs importants de ce monde de la mode, directeur de la Fashion Week et celui du Festival d'hier, qui nous disent que c'est une ouverture, que tout cela est très positif. Il y a aussi peut-être des aspects négatifs, ou en tout cas des acteurs qui y ont perdu. La presse, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui?
Alors, la presse,
cette fameuse presse magazine.
Ça a été difficile, hein. Les grands groupes de presse internationaux qui fondent toute leur notoriété sur la couverture de ce monde-là ont souffert parce que
il y a
moins d'argent, les annonceurs s'intéressent à ces plateformes qui leur proposent aussi des espaces où ils peuvent s'exprimer, où la consommation se fait, hein. Pour nommer Instagram par exemple, vous avez la possibilité maintenant, quand un produit vous plaît, de suivre un petit signe qui vous envoie directement vers les sites de commerce. Alors bien sûr, tout le monde n'achète pas de la mode haute couture sur Instagram, mais n'empêche, les accessoires, la parfumerie, tout ça, bah, ça crée un volume de consommation. Et là, la presse a souffert. Elle n'avait pas forcément les codes de ses réseaux sociaux, elle n'avait pas cette puissance d'attraction des followers qui sont présents, qui réagissent, qui indiquent des tendances. Donc cette presse traditionnelle, on peut penser à Hearst ou à des grands groupes comme par exemple ceux qui possèdent la marque Vogue, ont mis un peu de temps à réagir. Hein. Il y a eu un délai et là, la réaction est en train d'arriver. On sent les groupes essayer de remettre à plat leur stratégie digitale, à essayer d'importer les codes à nouveau qu'ils ont repérés sur les réseaux sociaux, à la fois dans des sites qu'ils créent pour eux, dans des comptes institutionnels du média et aussi à l'intérieur même du magazine où certaines rubriques reprennent les codes et les langages qui sont en vogue justement hein, sur les réseaux sociaux. La présence des hashtags, la présence du mannequin qui prend la parole et qui explique comment au quotidien elle utilise son compte Instagram pour vivre sa vie quotidienne. On voit hein, ces rubriques arriver dans la presse plutôt traditionnelle.
Alors d'une certaine manière, il y a une réinstitutionnalisation finalement de ces fameux acteurs, mais on a l'impression que du coup les magazines de mode, vous le dites d'ailleurs, c'est plutôt devenu du B2B, c'est-à-dire du business to business, que les magazines de mode parlent plus tellement au grand public aujourd'hui, mais parlent à d'autres professionnels de la mode?
C'est tout à fait mon sentiment, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce bouquin, c'est de montrer que finalement, la presse magazine traditionnelle s'adresse plutôt à des prescripteurs, des consommateurs, aux responsables des marques eux-mêmes, pour leur dire, pour garder ce contact et pour aussi peut-être donner des tendances, pour filtrer les tendances, donner des tendances.
Et vous avez l'impression que du coup, dans cette question de la valeur, alors on l'a dit, la presse, elle a perdu beaucoup d'argent, on en parlait aussi aujourd'hui, la photo et la photo de mode. On sait qu'aujourd'hui, certains photographes de mode, il y a très peu de photographes de mode en tout cas, qui continuent à vivre de contrats avec la presse, alors que ça a été pendant des années leur principale rentrée d'argent. Aujourd'hui, bah, de plus en plus, ils vont faire des photos pour des marques et la presse va acheter des photos déjà produites pour les marques. Qui gagne, qui perd? Et vous avez l'impression que la valeur, elle va aller où en conclusion?
Alors, je pense que la valeur, je pense que dans cette émission, on en parle beaucoup, la valeur, elle est captée par les plateformes hein, qui savent très bien récupérer le flux de connexion via les followers qui s'inscrivent en masse et qui sont présents et qui donnent des données sur leur consommation, le rythme de leur consommation, les marques qu'ils vont regarder. Donc, toutes ces données, elles remontent vers les plateformes qui ont tout intérêt à grossir et aussi à s'associer avec des marques qui vont permettre la consommation, c'est-à-dire des plateformes qui permettent d'aller vers des magasins en ligne où on peut directement consommer tout en un.
Et vous, vous êtes un petit peu moins optimiste que nos deux interlocuteurs d'hier, parce que vous vous rappelez qu'effectivement, ces plateformes, eh ben, elles récupèrent quand même pas mal de sous. Sophie Friedman nous le disait tout à l'heure, la plupart de ces influenceurs ne sont pas si indépendants de ça, parce qu'ils sont aussi tributaires des associations qu'ils ont avec ces marques. Et enfin, un dernier mot, il y a quand même une vraie autocensure sur ces plateformes. Vous le dites, ça censure l'origine du monde. Il y a des images de mode qui ont été des images parfois très violentes, parfois très érotiques, qui peut-être ne pourraient plus advenir aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Moi, j'avais été marquée par cet exemple de cette image qui, vous connaissez ce tableau, hein, l'origine du monde. On voit un sexe de femme pleine face. Et Facebook a censuré cette image. Donc, des images de mode qui peuvent être parfois assez dénudées, avec des modèles qui exposent des robes un peu compliquées. Eh bien, ces images-là peuvent aussi être censurées en amont même du choix que pourrait faire une marque pour essayer d'incarner une tendance de saison. Donc oui, les plateformes ont aussi leur mot à dire. Elles censurent en amont. Alors, le mot censure est peut-être un peu compliqué, mais je dirais peut-être une nouvelle pudibonderie numérique peut surgir.
Merci beaucoup Valérie Jeanne-Perrier, vous êtes l'auteur donc d'Internet a aussi changé la mode, c'est paru aux éditions Kawa et en 2016 et ça fait un très beau panorama de ces questions. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.